Chapitre 8. Quand Ifan était revenu de Worcester à la ferme, sa mère lui avait donné, pour son usage personnel, une petite pièce inhabitée attenant un parlour. Lui-même, il avait cloué des rayons pour ses livres, construit la charpente d'un divan, étalé dessus un vieux matelas, disposé ses papiers sur une table de bois blanc et accroché au mur, dénudé, une gravure d'Abraham Lincoln et un calendrier des poètes. Avec ses maigres moyens, il avait cherché à se constituer un cabinet de travail, comme celui d'un pasteur de Worcester, chez lequel il avait fréquenté, qui lui avait prêté des livres. C'était dans cette pièce qu'il se réfugiait encore pendant l'été, mais ayant dû donner son poêle pour la chambre de Mattie, lors de l'arrivée de la jeune fille à la ferme, il ne pouvait plus se tenir dans son cabinet de travail pendant l'hiver. Après la scène pénible qui venait d'avoir lieu dans la cuisine, la maison était rentrée dans le calme. Lorsqu'Ethan monta dans sa chambre, il entendit du lit la respiration régulière de Zéna. Pour cette nuit, la discussion était donc terminée. Il redescendit et gagna sa retraite. Quand sa femme eut quitté la cuisine, Mattie et lui y étaient demeurés vis-à-vis l'un de l'autre, sans chercher à se rapprocher. La jeune fille avait achevé de ranger, et lui-même, comme tous les soirs, avait pris sa lanterne pour aller faire au dehors la ronde habituelle. Au retour, il avait trouvé la cuisine vide, mais sur la table étaient posées sa pipe et sa blague, et au-dessous, un bout de papier arraché à un catalogue de Grenetier qui portait ces mots « Ne vous tourmentez pas, Etham. » En pénétrant dans son cabinet de travail, sombre et glacé, il plaça sa lanterne sur son bureau et, penché vers la lumière, il lut et relut le petit mot de Mattie. C'était la première fois qu'elle lui écrivait, et le fait de tenir ce papier entre les mains lui procura une sensation d'intimité nouvelle. En même temps, il songea douloureusement que tout serait désormais leur unique moyen de communiquer, et son angoisse s'en accrut. À la place du sourire de Mattie et du son de sa voix, il n'aurait plus d'elle que des pages inanimées et des paroles écrites. Un instinct de rébellion grondait sourdement en lui. Il était trop jeune, trop robuste, trop bouillonnant de sève pour assister sans révolte à l'écroulement de ses espérances. Lui faudrait-il user toute sa vie à vivre auprès d'une femme aigrie et maussade? Il avait eu d'autres aspirations. Ses aspirations, il avait dû les sacrifier une à une à l'étroitesse d'esprit et de l'ignorance de Zéna. Et en fin de compte, qu'avait-il retiré de ses sacrifices? Sa femme était 100 fois plus maussade et plus acariâtre qu'au temps où il l'avait épousée. La seule joie qu'elle parut ressentir était de le faire souffrir. Tous ses instincts d'être jeune et bien portant se soulevaient contre l'inutilité de ses souffrances. Il s'enveloppa dans sa vieille pelisse de raton pelé et s'allongea sur le divan. Sous sa joue, il sentit un objet dur et bosselé. C'était un coussin que Zéna avait brodé pour lui au temps de leur fiançailles, le seul travail à l'aiguille qu'il lui ait jamais vu faire. Il le lança sur le plancher et appuya sa tête contre le mur. Ethan connaissait un jeune homme habitant l'autre versant de la montagne, à peu près de son âge, qui s'était évadé d'une vie comme la sienne en emmenant en Californie une jeune fille qu'il aimait. Sa femme avait divorcé, il avait épousé sa compagne et il était heureux. L'été précédent, Fromm avait rencontré le nouveau ménage à Shadds Falls, où il se trouvait en visite chez des parents. Une petite fille était née du mariage. Elle avait de jolis cheveux blonds et bouclés, et on l'habillait en princesse avec un médaillon en or autour du cou. La première femme du jeune homme n'avait pas mal réussi non plus. Son mari, en la quittant, lui avait laissé la ferme qu'elle avait bien vendue, et le produit tiré de cette vente, joint à sa pension alimentaire, lui avait permis d'ouvrir à Bettsbridge un restaurant qui prospérait. Cette histoire revint soudain à l'esprit de Fromm. Pourquoi, quand Mattie partait le lendemain, ne l'accompagnerait-il pas au lieu de la laisser s'en aller toute seule? Il cacherait sa valise sous le siège du traîneau. Zéna ne se douterait de rien, jusqu'au moment où elle monterait dans la chambre faire son somme quotidien. À ce moment seulement, elle trouverait une lettre de son mari sur son lit. Il était encore à l'âge où l'acte succède bientôt à la pensée. Il se remit sur pied, ralluma la lanterne et s'assit à son bureau. Il fouilla dans le tiroir, prit une feuille de papier et se mit à écrire. « Zéna, j'ai fait pour vous tout ce que j'ai pu faire et je ne vois pas à quoi cela a servi. Ce n'est sans doute pas de votre faute et ce n'est certainement pas de la mienne. Peut-être vaut-il mieux nous séparer. Je m'en vais dans l'Ouest, tenter la chance. Je vous laisse la ferme et la scierie. Vous pouvez les vendre et garder l'argent. » Sa plume s'arrêta sur ce mot qui, brutalement, le ramenait à la réalité impitoyable. S'il donnait la ferme et la scierie à Zéna, que lui resterait-il à lui-même pour se refaire une vie? Une fois dans l'Ouest, il était bien certain de trouver du travail. Seul, il n'eut pas craint de risquer l'aventure, mais avec Mattie, la situation serait autre. Et quel serait d'autre part le sort de Zéna? La maison et la scierie étaient hypothéquées jusqu'à la limite de leur valeur. Dans le cas, déjà improbable, où elle trouverait acquéreur, il était douteux que sa femme retirât de la vente plus d'un millier de dollars. En attendant, comment pourrait-elle exploiter la propriété? C'était seulement par un labeur incessant et une surveillance personnelle qu'il arrivait, lui, à en tirer un maigre rendement. Et même en admettant que sa femme fût en meilleure santé qu'elle ne se l'imaginait, jamais elle ne parviendrait à porter seule un pareil fardeau. Elle pourrait, il est vrai, rentrer dans sa famille. Elle verrait alors ce que ses parents étaient prêts à faire pour elle. C'était la solution qu'elle imposait à Mattie. Pourquoi ne pas lui laisser courir le risque elle-même? Lorsqu'elle aurait découvert où les amoureux s'étaient établis et qu'elle intenterait une action en divorce, il serait vraisemblablement en mesure de lui servir une pension alimentaire convenable. Tandis que Mattie, chassée seule de la ferme, aurait bien moins de facilité à se tirer d'affaires. Il avait bouleversé son bureau en cherchant une feuille de papier. Comme il reprenait la plume, il vit au fond du tiroir un vieux numéro du Bettsbridge Eagle. La page des annonces était sous ses yeux, et il y lut « Excursion dans l'Ouest, tarif réduit ». Il rapprocha la lumière et parcourut la liste des prix. Le journal lui tomba des mains, il poussa loin de lui sa lettre inachevée. L'instant d'avant, il s'était demandé comment ils vivraient, Mattie et lui, une fois arrivés dans l'Ouest. Et maintenant, il se rendait compte qu'il n'avait même pas l'argent du voyage. Emprunter était hors de question. 6 mois auparavant, il avait donné sa dernière garantie pour obtenir les fonds nécessaires à la réparation de la scierie, et il savait bien que, sans garantie, il ne trouverait personne dans le Starkfield pour lui prêter 10 dollars. Les faits inexorables s'abattaient sur lui comme les mains d'un geôlier attachant les menottes à un forçat. Il n'y avait pour lui aucune issue, aucune. Il était prisonnier pour la vie. Et le seul rayon de lumière qui éclairait sa nuit était sur le point de s'évanouir. Il s'affala lourdement sur le divan. Tous ses membres étaient si lourds qu'il avait l'impression de ne plus jamais pouvoir les remuer. Des larmes lui emplirent la gorge et creusèrent un sillon brûlant jusqu'à ses paupières. Tandis qu'il demeurait ainsi étendu dans l'obscurité, la fenêtre en face de lui s'éclaira peu à peu, encadrant un coin de ciel d'une clarté laiteuse. Une branche tordue s'y profilait, une branche de ce pommier sous lequel, en rentrant de la Syrie, il trouvait parfois Mathie assise pendant les soirs d'été. Lentement, le voile des vapeurs pluvieuses prit feu et se déchira, et l'astre apparut tout pur, suspendu dans la nuit bleue. Hassan se dressa sur le coude et regarda le paysage qui blanchissait peu à peu et arrondissait ses contours sous la sculpture de la lune. C'était cette nuit même qu'ils devaient, Mathie et lui, aller au village pour leur partie de juge. Et voilà que devant lui s'allumait la lampe qui les eût éclairés. Le cœur lourd, il contemplait les pentes lumineuses, les bois sombres auréolés d'argent, les collines nébuleuses, se confondant avec le bleu violacé de l'horizon, et il lui sembla que la nature étalait devant lui toute cette beauté nocturne pour mieux se jouer de son désespoir. Il s'assoupit. Lorsqu'il se réveilla, le froid de l'aube d'hiver emplissait la chambre. Il était gelé et courbattu. Il avait faim et en était honteux. Il se frotta les yeux et s'approcha de la fenêtre. Un soleil rouge paraissait à peine au-dessus de la morne étendue des champs gris. Contre son disque en feu, les arbres se dessinaient, noirs et grêles. « C'est le dernier jour de Mathie, » se dit-il. Mais il essaya de se représenter ce que serait la maison sans elle. Tandis qu'il demeurait ainsi, il entendit des pas derrière lui et Mathie entra. « Oh, Hassan, c'est ici que vous avez passé la nuit ?» Dans sa pauvre robe étriquée et la tête enveloppée de son écharpe rouge, sous la lumière blafarde qui accusait sa pâleur, elle paraissait si maigre, si grelottante, qu'il ne trouva pas un mot à lui répondre. « Mais vous devez être gelé, » continua-t-elle en fixant sur lui des yeux bas, là. Il fit un pas vers elle. « Mais comment saviez-vous que j'étais ici ?»« Je vous ai entendu redescendre l'escalier hier soir et toute la nuit j'ai prêté l'oreille, vous n'êtes pas remonté. » Toute la tendresse de Fromont reflua à ses lèvres. Il regarda Mathie et lui dit « Je vais venir tout de suite à allumer le feu de la cuisine. » Ils allèrent ensemble à la cuisine et Hassan apporta le petit bois et le charbon. Puis il nettoya le fourneau. Pendant ce temps, Mathie mettait sur la table le pot de lait et les restes froids du pâté. Lorsque la chaleur commença à monter du poêle et que le premier rayon de soleil s'allongea sur le plancher de la cuisine, les sombres pensées d'Hassan se dissipèrent dans la tiédeur environnante. La vue de Mathie, vaquant à sa besogne comme il la voyait faire tous les matins, l'empêchait de croire qu'elle pût jamais cesser de partager sa vie. Il se disait qu'il avait sans doute exagéré la portée des menaces de Zéna et qu'elle-même, avec le jour, deviendrait plus accessible à la raison. Il se dirigea vers Mathie, qui était penchée au-dessus du fourneau. Il posa sa main sur son bras. « Il ne faut pas vous tourmenter, vous non plus, » dit-il, la regardant dans les yeux avec un sourire. Elle devint toute rouge et murmura « Oh non, Tom, je ne me tourmenterai pas. Les choses s'arrangeront. » Un rapide battement des paupières fut la seule réponse qu'elle lui fit. Il continua. Elle n'a rien dit ce matin ? Non, je ne l'ai pas encore vue. Ne faites pas attention à ce qu'elle pourra vous dire. Ils se séparèrent et Hassan se remit à l'étendue à l'étable. En sortant de la maison, il vit Jolan Powell qui montait la colline dans la brume matinale. Sa vue ajouta au nouveau sentiment de sécurité d'Ethan. Tandis que les deux hommes nettoyaient les stalles des vaches, Jonathan lui dit en s'appuyant sur sa fourche « Daniel Byrne doit aller au Flats à midi. Il pourra emporter la malle de Matty. Ça vous gênerait plutôt dans le cutter quand je la conduirai à la gare. » Ethan lui jeta un coup d'œil stupéfait et Jonathan continua. « Ben, Mrs. Fromm m'a dit que je devais prendre la nouvelle servante à la gare des Flats à 5 heures et qu'en même temps je pourrais y conduire Matty de façon qu'elle puisse attraper le train de 6 heures pour Stamford. » Le sang d'Issam bourdonnait dans ses tempes. Il lui fallut un moment pour retrouver la parole, puis il dit négligemment « Oh, il n'est pas encore certain que Matty parte. » « Ah bon ?» répondit Jotham d'une voix indifférente, et ils se remirent tous deux à leur besogne. Lorsqu'ils rentrèrent dans la cuisine, les deux femmes s'étaient déjà attablées. Zina paraissait plus éveillée et plus active que de coutume. Elle but coup sur coup 2 tasses de café et donna au chat les miettes du pâté. Puis elle se leva et, allant vers la fenêtre, enleva au géranium 2 ou 3 feuilles jaunies. « Ceux de Tante Martha n'ont pas une feuille morte, mais voilà, les plantes dépérissent toujours quand on les soigne pas, » dit-elle sur un ton pensif. Puis elle se tourna vers Jotham et lui demanda « À quelle heure Daniel Byrne passera-t-il ? » Le journalier lança un coup d'œil hésitant à Ethan. « Vers midi. »« Votre malle est trop lourde pour le cutter, » continua Zena en s'adressant à Matty. « Daniel Byrne la portera au Flats. »« Je vous remercie, Zena. »« Il y a plusieurs choses que je voudrais passer en revue avec vous, » poursuivit-elle d'une voix impassible. « Il manque une serviette de grosse toile. » Et puis je me demande bien ce que vous avez pu faire du porte-allumette qui se trouvait toujours dans le parloir, derrière le hibou empaillé. Elle sortit, suivie de Matty, et lorsque les hommes se retrouvèrent seuls, Jotham dit à Fromm, « Vaut mieux laisser venir Daniel. » Et Sam finit sa besogne accoutumée à la ferme et aux écuries. Puis il annonça à Jotham « Je vais à Starkfield, dites que l'on ne m'attende pas pour le dîner. » De nouveau, il se sentait pris d'une fièvre de révolte. Ce qui lui avait semblé incroyable à la lumière du jour était cependant en voie de réalisation, et lui faudrait assister en spectateur impuissant au renvoi de Matty. Humilié dans sa fierté d'homme par le rôle qu'il était obligé de tenir, il se demandait avec amertume ce que Matty pourrait bien penser de lui. Tandis qu'il s'acheminait vers le village, des résolutions contradictoires se débattaient en lui. Il voulait faire quelque chose, mais il ne savait pas encore ce qu'il ferait. Le brouillard du matin s'était dissipé et les champs neigeux s'étendait sous le soleil comme un immense bouclier d'argent. C'était une de ces journées où le scintillement du froid est adouci comme par une vaporeuse buée de printemps. Chaque pas sur cette route évoquait pour Ethan le souvenir de Matty. À toutes les branches nues, se dessinant contre le ciel et au fouillis roussâtre du talus qui bordait le chemin creux, flottaient les souvenirs de leur intimité passée. La roulade d'un oiseau dans un frêne au bord de la route résonna au milieu de l'air calme comme le rire même de la jeune fille. Et le cœur d'Issan se contracta puis s'élargit à nouveau. Il sentit alors qu'à tout prix il fallait agir. Soudain, il se dit qu'Andrew Hill avait le cœur généreux et que peut-être il reviendrait sur son refus s'il apprenait que l'état de santé de Zina forçait les Fromm à prendre une servante. Elle, après tout, était assez au courant de la situation d'Ethan pour que celui-ci pût, sans un trop grand sacrifice d'amour-propre, tenter une nouvelle démarche. Et d'ailleurs, dans ce drame passionné qui se jouait dans son âme, de tels scrupules ne comptaient plus guère. Et plus il songeait à son projet, plus celui-ci lui semblait réalisable. S'il pouvait parler à Mrs. Hill, il était certain du succès, et avec $50 en poche, rien ne pourrait plus l'empêcher d'accompagner Matty. Pour le moment, l'essentiel était d'atteindre Starkfield avant que Hill ne partît pour son travail. Fromm savait que l'entrepreneur devait quitter le village de bonne heure afin d'aller surveiller une construction sur la route de Carberry. Les longues enjambées du jeune homme devinrent plus rapides à mesure que ses pensées s'accéléraient, et comme il arrivait au pied de la montée de la schoolhouse, il vit au loin le traîneau du constructeur. Il hâta le pas, mais en approchant, il s'aperçut que le traîneau était conduit par le plus jeune fils de Hill. À son côté se trouvait Mrs. Hill, si emmitouflée qu'elle ressemblait à un gros cocon de chenille auquel on aurait mis des lunettes. Ethan leur fit signe d'arrêter, et Mrs. Hill pencha vers lui, souriant de toutes ses bonnes rides roses. « Mrs. Hill, je crois bien vous le trouverez à la maison. Il n'est pas à son travail ce matin. Il s'est réveillé avec un peu de lombago. Je viens de lui poser un des emplâtres du docteur Kidder en lui recommandant de ne pas quitter le coin du feu. » Jetant un regard maternel sur Fromm, elle se pencha davantage pour ajouter « Ah oui, Monsieur Hill vient justement de m'apprendre que Zina a été à Bitsridge, consulter un nouveau médecin. Je suis vraiment désolé qu'elle soit toujours si souffrante. J'espère que le docteur Buck lui fera du bien. Je ne connais personne dans le pays qui ait été plus éprouvé que Zina. Je dis souvent à mon mari que je ne sais pas ce qu'elle serait devenue si vous n'aviez pas été là. Je le disais déjà autrefois à propos de votre mère. Vous avez toujours eu la vie bien dure, mon pauvre Ethan. » Elle salua d'un dernier petit signe de tête amical, tandis que son fils encourageait le cheval de la voie. Ethan demeura au milieu de la route et regarda le traîneau s'éloigner. Il y avait longtemps qu'on ne lui avait parlé avec autant de bonté. La plupart des gens étaient indifférents à ses soucis ou enclins à trouver tout naturel qu'un jeune homme de son âge eût porté sans murmurer le fardeau de 3 existences avortées. Mais Mrs. Hill lui avait dit « Vous avez toujours eu la vue bien dure, mon pauvre Ethan. » Et il se sentait moins isolé dans son malheur. Puisque les Hill le plaignaient, il répondrait sûrement à son appel. Il se remit en marche, mais au bout de quelques mètres, le sang lui monta brusquement au visage. Pour la première fois, à la clarté des mots qu'il venait d'entendre, il discernait nettement ce qu'il était sur le point de faire. Il était parti de chez lui avec l'intention de profiter de la sympathie des Hill pour leur soutirer, sous un faux prétexte, l'argent qui lui eut permis d'enlever Matty Silver. C'était là la raison secrète qui l'avait conduit à Starkfield. Il perçut brusquement l'extrémité à laquelle sa folie l'avait porté, et aussitôt la folie tomba, et sa vie lui apparut telle qu'elle était réellement. Il était un homme pauvre, le mari d'une femme malade que son abandon eût laissé seule et sans ressources, et même s'il avait eu le cœur de l'abandonner, il n'eût pu le faire qu'en abusant deux braves gens qui lui avaient témoigné de la sympathie. Il rebroussa chemin et reprit lentement la route de la ferme. Chapitre 9. Daniel Byrne était assis dans son traîneau devant la porte. Son cheval gris piétinait la neige et secouait sans cesse sa longue tête méchante. Ethan entra dans la cuisine. Il trouva sa femme auprès du poêle. Sa tête était enveloppée d'un châle et elle lisait un livre intitulé « Les maladies de reins et leur guérison », pour lequel Ethan avait dû payer, quelques jours auparavant, un assez lourd port supplémentaire. À son entrée, Zina demeura immobile, les yeux toujours fixés sur son livre. Il attendit un instant, puis il lui demanda « Où est Matti ?» Tout en continuant de lire, elle lui répondit « Elle est sans doute en train de descendre sa malle. » Le sang colora le visage de Fromm. « Elle descend sa malle toute seule ?»« Jotham Powell est reparti pour le tailler et Daniel Byrne n'ose pas quitter son cheval. » Ethan n'écouta même pas la fin de la phrase. Il grimpa l'escalier d'un trait. La porte de la chambre de Matti était fermée, et il hésita une seconde sur le palier. « Matt !» dit-il à voix basse. Elle ne répondit pas, et il posa la main sur le loquet. Il n'avait pénétré qu'une fois dans la chambre de la jeune fille. C'était au début de l'été, quand il y était entré pour couler du plâtre au bord du toit. Mais il conservait dans sa mémoire le souvenir fidèle de tout ce qu'il y avait vu. Le lit étroit, avec son couvre-pied rouge et blanc, la jolie pelote sur la commode, et au mur, une photographie agrandie de sa mère dans un cadre de métal argenté, surmonté de monnaie du pape. Maintenant, tout ce qui lui appartenait avait été enlevé de la pièce. Elle était aussi nue, aussi peu accueillante que lorsque Zina y avait introduit la jeune fille le jour de son arrivée. La malle était au milieu du parquet, et Matti était assise dessus, vêtue de sa robe des dimanches. Elle tournait le dos à la porte et cachait sa figure entre ses mains. À travers ses sanglots, elle n'avait point entendu l'appel de Fromm, et elle n'entendit son pas qu'au moment où il lui posa les mains sur les épaules. « Oh, Matt, je vous en supplie, non, ne pleurez pas ainsi !» Elle sursauta, se dressa, et tourna vers lui son visage baigné de larmes. « Ethan, je croyais que je ne vous reverrais plus. » Il la prit dans ses bras, la serra contre lui et d'une main tremblante caressa les cheveux épars sur son front. Ne plus me revoir, mais que voulez-vous dire? Entre deux sanglots, elle reprit. Vous aviez prévenu Jotham qu'on ne vous attendit pas pour le dîner, et alors j'ai cru. Il acheva la phrase avec amertume. Vous avez cru que j'avais l'intention de ne pas revenir ? Sans répondre, elle se pendit à son cou. Il posa les lèvres sur ses cheveux, qui avaient la souplesse et la douceur de certaines mousses sur des pentiédis, et qui dégageaient la senteur aromatique de la sciure de bois au soleil. À travers la porte, ils entendirent la voix de Zina qui criait. « Daniel Byrne dit que vous ferez bien de vous dépêcher, hein, si vous voulez qu'il emporte votre malle. » Ils s'écartèrent l'un de l'autre, le visage navré. Des mots de révolte montèrent aux lèvres de Fromm, mais ils moururent. Matti chercha son mouchoir et se sécha les yeux, Puis, se penchant, elle saisit une des poignées de la malle. Issan l'écarta aussitôt. « Laissez cela, Mati » ordonna-t-il. Elle répondit. Ben, « Il faut être deux pour pouvoir tourner le coin. » Issan, sans plus discuter, s'empara de l'autre poignée et ensemble, ils portèrent la main sur la malle sur le palier. « Maintenant, laissez-moi faire, » dit-il. Il chargea le colis sur son épaule, descendit l'escalier et traversa la cuisine. Zéna, toujours assise auprès du poêle, s'était replongée dans sa lecture. Elle ne leva même pas les yeux quand il passa. Mati le suivit jusqu'à la porte d'entrée et l'aida à placer la malle à l'arrière du traîneau. Puis, à côté l'un de l'autre, ils demeurèrent sur le seuil à regarder Daniel Byrne s'éloigner au grand trot de son cheval impatient. Il semblait à Issan que son cœur était ligoté par des cordes qu'une main invisible resserrait à chaque tic-tac de la pendule. Deux fois, il ouvrit la bouche pour adresser la parole à Mati, et deux fois, le souffle lui manqua. Enfin, comme elle se retournait pour rentrer, il posa la main sur son bras et la retint. « Je vous conduirai moi-même, Mati, » dit-il. Elle murmura à mi-voix. « Oh, je crois que Zéna préférerait que j'aille avec Jotham. »« Je vous conduirai moi-même, » répéta-t-il. Sans répondre, elle rentra dans la cuisine. Au repas de midi, Issan fut incapable de manger. Dès qu'il levait les yeux, il voyait devant lui le visage pincé de Zéna et le sourire qui faisait remonter les coins de ses lèvres étroites. Elle mangeait abondamment, déclarant que le temps doux l'avait remonté, et elle qui, d'habitude, encourageait guère l'appétit de Jotham Powell, insista pour qu'il reprît des flageolets. Le repas achevé, Mati, comme à l'ordinaire, se mit à débarrasser les couverts et à laver la vaisselle. Zéna, après avoir donné au chat sa pâtée, était revenue s'installer auprès du feu. Enfin, Jotham Powell, qui demeurait toujours le dernier à table, quitta lentement sa chaise et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il se retourna et s'adressant à Issan, « À quelle heure dois-je venir prendre Mati ?» demanda-t-il. Issan se tenait auprès de la fenêtre. Il bourrait machinalement sa pipe tout en regardant Mati aller et venir. Et il répondit, « Oh, je la conduirai moi-même. » Il vit la rougeur monter aux joues de la jeune fille, tandis que Zéna levait brusquement la tête. « J'aurai besoin de vous cet après-midi, Ethan, » dit-elle. « Jeune femme, me conduira Mati à la gare. » Mati implora Fromm du regard, mais il répéta d'un ton bref, « Je la conduirai moi-même. » Zéna reprit, « J'ai besoin de vous pour réparer le poêle de la chambre de Mati avant que la servante n'arrive. Voici plus d'un mois qu'il ne tire plus. » Issan repartit sur un ton indigné. « Ce qui suffisait pour Mati est bien assez bon pour une servante. » Zéna poursuivit avec la même douceur monotone. Elle m'a dit qu'elle avait l'habitude de servir dans des maisons chauffées aux calorifères. Elle aurait mieux fait d'y rester, lança-t-il. Il se tourna vers Mati, il ajouta d'une voix dure. Vous vous tiendrez prête pour 3 heures. J'ai affaire à Corbury. Jotham Powell s'était déjà mis en route pour l'écurie. Issan le suivit. Ses tempes battaient, il était aveuglé par une rage muette. Il se mit à l'ouvrage, sans savoir quelle force le dirigeait, ni comment ses pieds et ses mains exécutaient ses ordres. Ce ne fut qu'au moment où il sortit l'alezan et le fit entrer dans les brancards du traîneau qu'il reprit conscience de ses actes. Tandis qu'il passait la bride par-dessus la tête du cheval et qu'il enroulait les traits autour des brancards, il se souvint de l'après-midi où il avait fait les mêmes préparatifs pour aller au-devant de Matty au Flats il y avait un peu plus d'un an. Comme aujourd'hui, le temps avait été doux avec un souffle de printemps dans l'air. L'alezan, tournant vers lui le même grand œil cerclé de noir, se frottait le museau contre la paume des thanes de la même façon. Un à un, les jours qui s'étaient écoulés se dressèrent tous devant lui. Il jeta la peau d'ours dans le cutter, puis il y grimpa et gagna la maison. Il trouva la cuisine vide. Seul le sac de Matty et son plaid étaient placés auprès de la porte. Il alla jusqu'au pied de l'escalier et prêta l'oreille. Aucun bruit ne venait du premier étage, mais peu de temps après, il lui sembla entendre remuer quelqu'un dans son cabinet de travail. Il poussa la porte. Matty, en chapeau et en jaquette, se tenait debout près de la table en lui tournant le dos. À son approche, elle tressaillit et se retourna vivement. « Est-il temps de partir ?» dit-elle. « Mais que faites-vous ici, Matt ?» Elle le regarda timidement. « Bon, je jetais un dernier coup d'œil, voilà tout, » répondit-elle avec un sourire hésitant. Ils gagnèrent la cuisine en silence. Ethan prit le sac et le plaid. « Où est Zena ?» demanda-t-il. « Elle est montée dans sa chambre tout de suite après le repas. Elle se plaignait encore de ses douleurs et elle a défendu qu'on la dérangeât. Elle ne vous a pas dit adieu ? Non, non, c'est tout ce qu'elle a dit. » Ethan regarda lentement autour de lui. Il songeait en frissonnant que dans quelques heures il rentrerait seul dans cette maison. Puis un sentiment d'irréalité s'empara de lui à nouveau, et il ne put croire que la jeune fille se trouvait là pour la dernière fois. « Allons, venez, » dit-il d'une voix presque enjouée, et il ouvrit la porte. Il plaça le sac dans le traîneau et sauta sur la banquette. Matty s'installa à côté de lui, et il se pencha pour l'envelopper dans la couverture. « Hop, en route » cria-t-il au cheval. Il secoua les guides et le vieil alezan partit d'un pas tranquille. « Nous avons tout le temps de faire une belle promenade, » fit-il. Et cherchant la main de la jeune fille sous la fourrure, il la serra doucement. Le sang lui brûlait le visage et la tête lui tournait comme si, par un jour de grand froid, il était entré boire un verre au bar de Starkfield. La barrière franchie, au lieu de gagner le village, il prit à droite dans la direction de Billsbridge. Matty demeurait silencieuse et ne manifesta aucune surprise. Mais après un moment, elle dit « Vous allez faire le tour par Shadow Pond, n'est-ce pas ?» Il se mit à rire et répondit « Ah, je savais bien que vous aviez deviné !» Elle se blottit sous sa peau d'ours de telle sorte que lorsqu'Ethan engoncé dans sa pelisse la regardait de côté, il pouvait tout juste apercevoir le bout de son nez et une boucle brune qui voltigeait. Ils cheminèrent lentement entre les champs qui miroitaient sous le soleil pâle. Puis ils s'engagèrent dans un chemin de traverse bordé de pins et de mélèzes. Au loin, devant eux, s'étendait une ligne de montagne dont les ondulations blanches, marbrées de futaies brunes, se déroulait contre le blanc horizon d'hiver. Puis le chemin s'enfonça dans un bois de sapins. Leurs fûts rougissaient à la lueur du soleil couchant et projetaient sur la neige des ombres d'un bleu transparent. Sous le toit des arbres, la brise ne se faisait plus sentir. Une tiédeur paisible semblait tomber des branches avec la chute des aiguilles. La neige était si pure que les pattes des petites bêtes, putois, écureuils, oiseaux, avaient tracé sur elle des arabesques légères et dentelées. Les pommes de pin bleuissantes, à moitié enfouies dans cette blancheur immaculée, s'en détachaient avec le dur relief d'ornements de bronze. Ethan conduisait en silence, poussant le cheval vers un endroit où les sapins s'espaçaient. Puis il arrêta le traîneau et fit descendre Matty. Tous deux se mirent à marcher entre les troncs aromatiques. La neige durcie craquait sous leurs pas. Ils atteignirent enfin un étang aux rives escarpées revêtues d'arbres. Une colline abrupte au soleil couchant allongeait une ombre comique sur la surface gelée de l'eau. Cette ombre avait donné son nom à l'étang. C'était un endroit sauvage et retiré, d'où se dégageait une mélancolie morne semblable à celle qui oppressait le cœur des fans. Parcourant du regard la rive caillouteuse, il découvrit un tronc d'arbre abattu, à moitié enseveli dans la neige. C'est ici que nous nous étions assis le jour du pique-nique, lui rappela-t-il. Il s'agissait d'une des rares parties de plaisir auxquelles les deux jeunes gens avaient participé, d'un pique-nique organisé par leur paroisse et qui, durant une longue après-midi d'été, avait rempli d'une gaieté bruyante le petit bois isolé. Matty avait prié Fromm de l'accompagner et il avait refusé. Mais vers le coucher du soleil, en descendant de la montagne où il avait été abattre des arbres, il fut surpris par quelques joyeux lurons de la bande et entraîné jusqu'à l'étang. Il avait retrouvé Matty, entouré de jeunes gens guettés, qui préparaient du café sur un feu de bohémiens. Sous le large bord de son chapeau de paille, sa figure ambrée aux reflets roses brillait comme une mûre sauvage. Ethan se souvint de s'être senti tout honteux à l'idée de se présenter devant elle dans ses habits de travail. Puis il se rappela la lueur de joie qui avait illuminé les yeux de Matty à son approche et la façon dont elle s'était détachée du groupe pour venir au-devant de lui, une tasse à la main. Ils s'étaient assis tous deux sur le tronc abattu près de l'étang et elle s'était aperçue qu'elle avait perdu son médaillon en or. À sa prière, tous les jeunes gens s'étaient lancés dans la recherche du bijou. Ce fut Ethan qui le découvrit le premier, brillant à travers la mousse épaisse. C'était tout. Mais toute leur intimité était faite de pareils instants de rapprochement muet, où, étonnés et attendris, ils rencontraient le bonheur comme s'ils eussent surpris un papillon dans les bois dénudés et neigeux. C'est ici que j'ai retrouvé votre médaillon, dit Ethan, enfonçant le pied dans une touffe épaisse de myrtille. Je n'ai jamais vu un œil comme le vôtre, répondit-elle. Elle s'assit sur le tronc d'arbre au soleil. Ethan se mit à son côté. Oh, vous étiez jolie comme un cœur avec votre chapeau rose, lui dit-il. Tout heureuse, elle répliqua en riant. C'était sans doute le chapeau. Jamais encore ils n'avaient manifesté aussi ouvertement la sympathie qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Ethan eut un instant d'illusion qu'il était libre et qu'il faisait la cour à la jeune fille qu'il rêvait d'épouser. Il regarda les cheveux de Matty. Il éprouva le désir de les caresser de nouveau. Il aurait voulu lui dire qu'ils embaumaient la senteur des bois, mais il ne savait pas exprimer de pareilles choses. Brusquement, Mathis se leva. Il ne faut pas que nous restions ici plus longtemps. Il continuait de la considérer vaguement, encore à demi perdu dans son rêve. « Oh, nous avons bien le temps, » répondit-il. Ils se regardaient tous les deux comme si chacun avait tendu toutes ses forces pour saisir et emporter dans ses yeux l'image de l'autre. Il y avait certains mots qu'Ethan voulait prononcer avant qu'ils ne se séparassent, mais il ne pouvait les lui dire dans cet endroit tout imprégné de leur bonheur passé. Il se détourna et suivit Matty en silence jusqu'au traîneau. Comme ils se remettaient en route, le soleil disparut derrière la colline et les fûts rouges des sapins devinrent gris. Pour regagner la route de Starkfield, ils suivirent un chemin sinueux à travers champs. Sous le ciel découvert, une pâle lumière s'attardait et le rouge glacé du couchant illuminait encore les hauteurs lointaines. Les bouquets d'arbres épars sur la plaine neigeuse se serraient l'un contre l'autre, comme des oiseaux cachant leurs têtes sous leurs plumes ébouriffées. Le ciel, en pâlissant, s'exhaussait, et la terre paraissait plus déserte. Comme le traîneau débouchait sur la grande route, Ethan parla enfin. « Matt, qu'avez-vous l'intention de faire ?» Elle hésita un moment, puis elle dit « J'essaierai de trouver une place dans un magasin. Mais vous savez bien que c'est impossible. La fatigue et le manque d'air ont déjà failli vous tuer. Oh, je suis beaucoup plus forte qu'à mon arrivée ici. Et maintenant, vous allez gaspiller toute la santé que vous avez gagnée. » À cela, il n'y avait rien à répondre. Et ils continuèrent leur route sans parler. À chaque tournant, un souvenir embusqué se dressait devant Ethan et Matty, comme pour leur barrer le chemin. Ici, ils avaient ri, là, ils s'étaient tus ensemble. Et parmi les parents de votre père, n'y a-t-il personne qui pourrait vous aider ? Aucun à qui je voudrais le demander. Il baissa la voix pour dire « Mais vous savez que je ferais tout au monde pour vous si je le pouvais. Oui, je le sais. Mais je ne puis rien. » Elle se tut, mais il sentit un léger tremblement de l'épaule appuyé contre la sienne. « Oh, Matty, si seulement j'avais pu partir avec vous comme je l'aurais fait !» Brusquement, elle se tourna vers lui et tira de son corsage une feuille de papier. « Ethan, voilà ce que j'ai trouvé, » balbutia-t-elle. Malgré l'obscurité croissante, il reconnut la lettre à sa femme commencée la nuit précédente et qu'il avait oublié de déchirer. À son étonnement se mêla un mouvement de joie sauvage. « Matty, s'écria-t-il, si ça avait été possible, auriez-vous consenti ?»« Oh, Ethan, à quoi bon en parler ?» D'un mouvement soudain, elle déchira la lettre. Les morceaux volèrent sur la neige. « Dites, Matty, dites, je vous en prie !» Elle demeura un instant sans répondre, puis d'une voix si basse qu'il dut pencher la tête pour l'entendre, « J'y ai pensé parfois dans les nuits d'été, quand le clair de lune remplissait ma chambre et m'empêchait de dormir. » Le cœur d'Ethan tressaillit d'ivresse. « Vous y songiez déjà l'an dernier ?» Comme si depuis des mois la date était gravée dans sa mémoire, elle répondit aussitôt « Oh, la première fois, ce fut à Shadow Pond. » C'est pour cela que vous m'avez donné ma tasse de café avant les autres. Je ne sais pas, l'ai-je fait? J'étais navré lorsque vous avez refusé de m'accompagner au pique-nique Et quand je vous vis arriver, je me suis dit, il a peut-être pris ce chemin pour me retrouver, et j'en étais tout heureuse. Ils se turent à nouveau. Ils s'étaient engagés dans le chemin creux qui longeait la Syrie des Thames. À mesure qu'ils avançaient sous les lourdes branches des sapins du Canada, le crépuscule descendait, tombait sur eux comme un voile noir. « Mais j'ai pieds, poings liés, Matty, je ne peux rien faire, » reprit Ethan. « Vous m'écrirez quelquefois, Ethan. » « À quoi bon écrire ? J'ai besoin, quand j'étends la main, qu'elle vous rencontre. J'ai besoin d'agir pour vous et de vous soigner. J'ai besoin d'être là quand vous êtes malade et que vous vous sentez seul. Bon, soyez sûr que je me tirerai d'affaire. Vous n'avez pas besoin de moi, vous voulez dire ? Oh, vous vous marierez sans doute. Oh, Ethan, s'écria-t-elle. Je ne sais pas ce que vous me faites éprouver, Matty, mais plutôt que de vous voir mariée, j'aimerais mieux vous savoir morte. Oh, je voudrais l'être, s'écria-t-elle dans un brusque accès de sanglots. Il l'entendit pleurer, et sa rage sombre tomba. Il se sentait tout honteux. Ne parlons pas ainsi, murmura-t-il. Pourquoi pas, puisque c'est la vérité. Je n'ai pas cessé une minute d'y penser toute la journée. Taisez-vous, Matty, je vous défends. Il n'y a que vous qui m'ayez témoigné de la bonté. Mais ne dites pas cela non plus, quand je ne peux même pas lever un doigt pour vous. Oui, mais cela n'en est pas moins vrai. Ils étaient arrivés en haut de la Schoolhouse Hill. Au-dessous d'eux, Starkfield s'étendait dans le crépuscule. Un cutter qui venait du village les croisa avec un joyeux bruit de grelots. Ils se raidirent et regardèrent droit devant eux, la face rigide. Dans la grande rue, les lumières commençaient à briller aux fenêtres. Quelques villageois attardés regagnaient leurs portes. Ethan toucha du fouet l'alezan, qui repartit d'un trot paresseux. Près de la sortie du village, des cris d'enfants leur arrivèrent, et une bande traînant des luges s'éparpilla sur la place devant l'église. « J'ai l'idée que c'est leur dernière glissade pour un jour ou deux, » dit Ethan en regardant le ciel radouci. Matty ne répondit pas, et il ajouta « Nous aussi, la nuit dernière, nous devions aller luger. » Elle se tenait toujours et, poussée par l'obscur désir d'alléger la tristesse de leur dernière heure ensemble, il continua à bavarder. « C'est tout de même curieux que nous n'ayons descendu la côte qu'une fois depuis que vous êtes chez nous. » Elle répondit, « Oh, je n'avais guère l'occasion d'aller au village. Hein, c'est vrai. » Ils avaient atteint le sommet de la route de Corbury. Entre la vague masse blanche de l'église et le noir rideau que formaient les sapins des Varnum, la descente s'étalait au-dessous d'eux, sans une luge sur son long parcours. Un élan insensé poussa Ethan à dire « Est-ce que cela vous amuserait de descendre la côte maintenant ?» Matty eut un petit rire forcé. « Nous n'avons pas le temps. Monsieur, monsieur, allez, venez !» Son seul désir était de retarder le plus possible le moment où il faudrait diriger l'alezan vers la gare des Flats. Matty balbutia. « Mais la servante, elle sera à la gare à nous attendre. »« Oh, bien qu'elle attende. Si ce n'était pas elle, ce serait vous. Allez, venez donc. » Il parlait avec un tel accent d'autorité que Matty en parut subjugué. Il sauta hors du traîneau et elle descendit sans résistance, se bornant à dire « Mais où trouverons-nous une luge ? Oh, j'en vois une là-bas, sous les sapins. » Là, le zorre se tenait paisiblement au bord de la route, inclinant sa vieille tête songeuse. Ethan le recouvrit de la peau d'ours. Puis il saisit la main de Mattie et l'entraîna à sa suite vers la luge. Elle s'y assit docilement et il prit place derrière elle. Ils étaient si près l'un de l'autre que les cheveux de Mattie lui frôlaient le visage. « Vous êtes bien, Mattie ?» lui cria-t-il comme s'il y avait entre eux toute la largeur de la route. Elle se retourna pour lui dire « Oh, il fait bien sombre, êtes-vous sûr d'y voir ?» Il eut un rire dédaigneux. « Ah, je pourrais descendre cette côte les yeux fermés !» Cette audace sembla lui plaire et elle rit avec lui. Néanmoins, il attendit encore un moment, parcourant attentivement des yeux la longue descente, car c'était l'heure la plus trompeuse de la soirée, l'heure où la dernière clarté du ciel se confond avec la nuit naissante pour former une obscurité qui dénature les objets familiers et fausse les distances. « Allons !» cria-t-il. La luge partit d'un bond, et ils glissèrent à travers le crépuscule à une allure de plus en plus rapide. Devant eux, la nuit creusait un gouffre noir et l'air résonnait à leurs oreilles comme le chant d'un orgue. Mattie ne bougeait pas, mais lorsqu'ils arrivèrent au tournant de la pente, là où le gros orme avançait son tronc menaçant, Ethan eut l'impression qu'elle se serrait davantage contre lui. « N'ayez pas peur, Mathilde !» cria-t-il avec un accent de triomphe, au moment où il dépassait le tournant dangereux et prenait leur élan pour la deuxième pente. Lorsqu'ils se trouvèrent au bas de la côte, la vitesse du traîneau se ralentit, et il entendit le petit rire joyeux de Mattie. Ils se mirent à remonter la côte à pied. Ethan, traînant la luge derrière lui, glissa son bras sous celui de Mattie. Aviez-vous peur que je vous envoie contre l'orme ? Demanda-t-il avec un joyeux rire de gosse. Mais vous savez bien que je n'ai jamais peur avec vous, répondit-elle. Ethan, il est temps de partir, s'écria-t-elle. Il l'attira contre lui. Temps de partir ? Oh, vous ne pensez pas que je vais vous laisser partir maintenant ? Mais si je manque mon train, où irai-je ? Et où irez-vous si vous le prenez ? Elle se tut, ses mains inertes et glacées abandonnées dans celles d'Ethan. À quoi cela sert-il désormais que l'un de nous aille quelque part sans l'autre ? Dit-il. Elle demeura immobile comme si elle ne l'avait pas entendu. Brusquement, elle se dégagea et, jetant ses bras autour du cou d'Ethan, pressa une joue mouillée contre son visage. « Ethan, il faut que vous me fassiez descendre une fois encore. »« Mais descendre où ?»« Au bas de la côte, tout de suite, » reprit-elle haletante. De façon à ce que nous ne la remontions plus jamais. Mattie, au nom du ciel, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Elle mit ses lèvres tout contre l'oreille du jeune homme, droit sur le gros orme. Vous avez dit que vous le pouviez. Ainsi, nous n'aurons plus à nous séparer, jamais. Que dites-vous ? Vous êtes folle. Mais je ne suis pas folle. « Mais je le deviendrai si je dois vous quitter. »« Oh, Mattie, Mattie !» gémit-il. Elle se cramponna à lui d'une étreinte plus serrée, son visage tout contre le sien. « Ethan, où irai-je si je vous quitte ? Je ne sais pas me débrouiller toute seule. C'est vous-même qui me le disiez tout à l'heure. Il n'y a que vous qui m'ayez témoigné de la bonté, et cette étrangère qui va coucher dans mon lit, où je passais toutes les nuits à guetter l'instant où vous remonteriez. » Les mots qu'elle prononçait semblaient au jeune homme comme des lambeaux de chair arrachés de son propre cœur. Ils évoquèrent en lui la vision abhorrée de la ferme où bientôt il lui faudrait rentrer, de l'escalier qu'il aurait à gravir chaque nuit et de la femme qui l'attendait. Et le ravissement de l'aveu de Mathie, le fol étonnement de savoir enfin que tout ce qu'il avait éprouvé, elle aussi l'avait ressenti, lui rendit l'autre vision plus haïssable encore et plus intolérable la pensée de cette autre existence. Elle parlait toujours par petites phrases entrecoupées de sanglots. Mais depuis longtemps, il ne l'entendait plus. Elle avait perdu son chapeau et il lui caressait les cheveux. Il voulait que sa main en gardât un souvenir vivace qui pût y sommeiller comme une graine en hiver. Une fois encore, il rencontra ses lèvres, et il lui sembla qu'ils étaient auprès de l'étang, sous un brûlant soleil d'août. Mais la joue qui effleura la sienne était froide et baignée de larmes, et il crut voir à travers la nuit la route des Flats, et entendre au loin le sifflement du train qui approchait. Les sapins de Norvège les enveloppaient d'obscurité et de silence, comme si tous deux étaient déjà sous terre dans leur cercueil. Voilà ce que l'on doit éprouver quand on est mort, songea Ethan. Puis il se dit, quand elle sera partie, je n'éprouverai plus jamais rien. Tout à coup, il entendit hennir le vieil alezan de l'autre côté de la route. « Il doit se demander pourquoi nous rentrons pas souper, » pensa Ethan. « Venez, » supplia Mathie en l'entraînant par la main. La sombre violence de la jeune fille fit ployer la volonté d'Ethan. Elle lui apparut comme l'instrument même du destin. Il alla prendre la luge et sortit de l'ombre épaisse des sapins. Sur la route, la faible clarté du ciel lui fit cligner des yeux comme un oiseau de nuit. Devant eux, la pente était déserte. Tout Starkfield soupait et personne ne traversait la place devant l'église. Le ciel, gonflé de l'humidité qui précède le dégel, abaissait ses lourdes nuées comme avant un orage d'été. Fromm chercha à sonder l'obscurité, mais ses yeux lui semblèrent moins perçants, moins assurés que de coutume. Il s'assit sur la luge, et aussitôt Mathie vint se placer devant lui. Ses cheveux effleurèrent la bouche d'Etnan. Il étendit ses jambes et émonça ses talons dans la neige pour maintenir le traîneau en place. Puis il saisit la tête de la jeune fille et l'inclina en arrière sous ses lèvres. Mais tout d'un coup, il se dressa. « Levez-vous, Mathie !» lui ordonna-t-il. C'était le ton auquel elle obéissait toujours, mais cette fois, elle ne bougea pas. « Non, non, non !» répéta-t-elle avec véhémence. « Levez-vous ! Pourquoi ? Parce que je veux me mettre en avant !» « Non, non, mais comment pourriez-vous diriger ?»« Mais je n'ai pas besoin de diriger, nous suivrons le chemin tracé. » Ils parlaient tous deux à voix basse, en murmures étouffés, comme si la nuit les écoutait. « Mais levez-vous, levez-vous » insista-t-il. Mais elle s'obstinait à répéter, « Mais pourquoi voulez-vous vous mettre en avant ?» Parce que j'ai besoin de sentir vos bras autour de moi, balbutia-t-il. Sa réponse parut la satisfaire, ou peut-être céda-t-elle à l'accent de sa voix. Elle se leva. Fromm se pencha, cherchant de la main l'étroite bande de glace nivelée par la descente d'innombrables traîneaux. Puis soigneusement, il plaça les patins entre les ornières qu'il abordait. Debout à son côté, Mathy attendait. Il s'accroupit en avant de la luge, les jambes croisées, et Mathy, prenant place vivement derrière lui, l'entoura de ses bras. En sentant sur sa nuque la laine de la jeune fille, il frissonna et se dressa à demi. Puis dans un éclair, il se souvint. Non, elle avait raison. Tout valait mieux que de se séparer. Il se pencha en arrière et attira les lèvres de Mathy sur les siennes. Au moment même où il partait, le cheval ennemi encore une fois. Cet appel familier et triste et toutes les images confuses qu'il évoquait remplirent la pensée d'Ethan durant la première partie du trajet. À mi-chemin, la route se creusait, puis il y eut une montée suivie d'une longue descente vertigineuse. Comme ils prenaient leur élan pour cette deuxième descente, il sembla à Ethan qu'il volait véritablement, qu'il volait très haut dans la nuit nuageuse, avec Starkfield bien loin au-dessous d'eux, perdu dans l'espace comme un point imperceptible. Puis le gros orme surgit comme s'il les guettait au tournant. Fromm marmotta entre ses dents. « Nous l'atteindrons, je suis sûr que nous l'atteindrons !» Au moment où il s'approchait de l'arbre, Mathy resserra ses bras et Ethan eut l'impression que leurs deux sangs se confondaient. Une ou deux fois, la luge broncha quelque peu, mais il s'inclina de côté de façon à la diriger droit sur l'arbre, et il se répétait sans cesse « je suis sûr que nous l'atteindrons !» Des petites phrases que Mathy avait prononcées lui traversait l'esprit et paraissait flotter dans l'air devant lui. L'arbre se rapprochait, plus grand et plus menaçant. Comme il piquait sur lui, Ethan se dit « Il nous attend, on dirait qu'il sait !» Mais tout à coup le visage de sa femme, devenu subitement immense, grimaçant, se dressa entre son but et lui. Il fit un mouvement instinctif pour l'éviter. La luge obéit, mais il la ramena en ligne, la maintint droite, et fonça sur la masse noire en saillie. Il eut conscience d'un dernier moment où l'air lui fouettait la figure comme des millions de fils de fer en feu. Puis il n'y eut plus que l'orme. Le ciel était toujours obscur. Mais en levant les yeux, il vit au-dessus de lui une étoile, une seule. Vaguement, il essaya de la reconnaître. Était-ce Sirius ou bien était-ce... L'effort le fatigua à l'excès. Il referma ses paupières pesantes et songea qu'il serait bien bon de dormir. Le silence était si profond qu'il entendit le vagissement d'un petit animal quelque part sous la neige. C'était comme la plainte menue et craintive de la souris des champs, et Ethan se demandait distraitement ce que pouvait avoir la petite bête. Puis il comprit qu'elle devait souffrir, d'une souffrance si atroce qu'il lui semblait mystérieusement en ressentir la répercussion dans tous ses membres. Ayant vainement essayé de se retourner dans la direction d'où venait le bruit, il allongea le bras sur la neige. Maintenant, le bruit n'était plus qu'un souffle, dont il croyait sentir la chaleur sous sa main, reposer sur quelque chose de doux et de soyeux. La pensée de la souffrance de cet animal lui devint intolérable, et il fit effort pour se lever. Mais il ne put y arriver. Un rocher ou quelque lourde masse pesait sur lui. Il continua cependant à tâtonner de la main gauche, cherchant à s'emparer de la petite bête. Mais subitement, Il s'aperçut que ce qui avait paru si doux à son toucher était la chevelure de Matti et qu'il avait maintenant une main sur son visage. Il parvint à se mettre à genoux et le poids effroyable se déplaça avec lui. Il promena ses doigts sur la figure de la jeune fille. Il sentit alors que c'était des lèvres de Matti que s'exhalait cette plainte. Il pencha sa tête tout contre la sienne. Il mit son oreille près de sa bouche et dans l'obscurité, il vit ses yeux s'ouvrir et l'entendit prononcer son nom. « Oh, Matt, j'étais si sûr que nous donnerions dans l'orme, » dit-il en gémissant. Et dans le lointain là-bas, sur la colline, il entendit le hennissement de l'alezan. « Il faut que j'aille lui donner à manger, » songea-t-il. La voix geignarde cessa lorsque j'entrai dans la cuisine des Fromm, et des deux femmes qui étaient assises, je ne pus deviner laquelle avait parlé. L'une d'elles, à ma vue, dressa sa haute taille osseuse. Ce n'était pas pour m'accueillir, car elle ne me lança qu'un rapide regard d'étonnement, mais pour préparer le repas qu'avait retardé l'absence prolongée de Fromm. Un peignoir d'indienne fripé pendait de ses épaules. De rares cheveux gris, tirés en arrière et maintenus par un peigne édenté, découvraient un front allongé. Ses yeux pâles et opaques ne révélaient rien, ne reflétaient rien, et ses lèvres étroites étaient de la même teinte jaunâtre que sa figure. L'autre femme était plus petite et plus frêle. Elle se tenait toute recroquevillée dans son fauteuil près du poêle. À mon entrée, elle tourna vivement la tête de mon côté, mais son corps demeura immobile. Ses cheveux étaient aussi gris que ceux de sa compagne, et sa figure aussi exsangue et aussi ridée. Mais sa pâleur avait une nuance d'ambre et des ombres bistrées creusaient ses tempes et accentuaient la minceur de ses narines. Sous sa robe informe, elle gardait une immobilité flasque, et ses yeux sombres avaient l'éclat maléfique particulier à ceux qui sont atteints d'une maladie de la moelle épinière. Même pour le pays, la cuisine des Fromm était assez misérable d'aspect. La femme assise près du poêle se tenait dans un fauteuil défraîchi qui paraissait avoir été acquis à la vente d'un mobilier plus luxueux, mais les autres meubles étaient des plus humbles. Trois assiettes de porcelaine grossière et un pot à lait ébréché étaient placés sur une table graisseuse, taillée des deux coups de couteau. Contre les murs blanchis à la chaux, deux chaises de paille et un buffet de cuisine en bois blanc s'alignaient maigrement. « Bigre ! Bouh, il fait froid ici. Le feu doit être éteint, » dit Fromm en s'excusant. La grande femme osseuse, qui s'était dirigée vers le buffet, ne fit aucune attention à ses paroles. Mais l'autre, de son fauteuil, répartit d'une voix aiguë et dolente. « Le feu vient seulement d'être arrangé à la minute. » Zéma s'était endormie, elle a dormi si longtemps que j'ai bien failli geler avant de pouvoir la réveiller. Je me rendis compte alors que c'était elle dont j'avais entendu la voix au moment où nous arrivions. Sa compagne, qui rentrait avec une terrine fêlée contenant les restes d'un mince paille froid, posa sur la table ce plat peu appétissant sans avoir l'air d'entendre l'accusation portée contre elle. Fromm parut hésiter un moment, tandis qu'elle s'avançait. Puis il me regarda et dit, Ma femme, Mrs. Froome. Après un nouveau silence, il se tourna vers la malade blottie dans le fauteuil et ajouta Miss Betty Silver. Mr. Sall, âme sensible, me voyait déjà égaré sur la route des flats et enseveli sous la neige. Sa satisfaction fut d'autant plus vive en me retrouvant sain et sauf le lendemain, et je vis que le danger que j'avais couru m'avait fort avancé dans ses bonnes grâces. Grand fut mon étonnement, ainsi que celui de la vieille Madame Barnum, quand elles apprirent que le cheval d'Isan Fromme m'avait conduit à la gare de Corbury et m'en avait ramené à travers la plus effroyable trombe de l'hiver. Leur surprise augmenta encore lorsque je leur racontai que Fromme m'avait hébergé la nuit précédente. À travers leurs exclamations, je devinais un secret désir de connaître les impressions que j'avais recueillies sous le toit des Fromme, et je compris que le meilleur moyen de forcer leur réserve était de maintenir la mienne. Je me bornai donc à leur dire que j'avais été reçu très aimablement et que Fromme m'avait dressé un lit dans une pièce du rez-de-chaussée, laquelle paraissait avoir servi autrefois de bureau ou de cabinet de travail. Évidemment, reprit Miss Cecil, il se sera rendu compte que par un temps pareil, il ne pouvait faire moins. Mais c'est égal, ça a dû lui coûter. Vous êtes sans doute le seul étranger qui ait mis les pieds dans cette maison depuis 20 ans. Le pauvre homme est fier, et il ne veut plus y admettre même ses plus vieux amis. Oh, je crois bien que le docteur et moi, nous sommes les seuls à y être encore reçus. Vous y allez encore, Mrs. Sale, risquai-je. J'y allais souvent après l'accident dans les premières années de mon mariage, mais au bout de quelque temps, j'eus l'impression que mes visites les rendaient plus malheureux. Puis les années passèrent et j'eus moi-même des soucis. Cependant, j'y vais encore à l'approche du nouvel an, et aussi une fois pendant l'été. Mais je tâche autant que possible de choisir un jour où Ethan est absent. C'est déjà assez pénible de voir les deux femmes assises l'une en face l'autre. Mais sa figure à lui, quand il regarde sa maison délabrée, me fend l'âme. C'est que, voyez-vous, mes souvenirs remontent à l'époque où sa mère vivait encore, avant tout leur chagrin. Pendant ce temps, la vieille Mrs. Barnum était allée se coucher. Sa fille et moi, nous restâmes à causer après le souper, dans l'austère parlot aux chaises de crin noir. Mr. Sall me regardait de façon hésitante. Je m'imaginais qu'elle cherchait à deviner ce que j'avais su déchiffrer de cette histoire. Et je crus comprendre que si elle s'était tue si longtemps, c'était peut-être dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un verrait ce qu'elle avait été seule à voir. J'attendis que sa confiance en moi se fût affermie, puis je lui dis « En effet, oui, c'est bien pénible de les voir tous les trois ensemble dans cette maison. » Son front bienveillant se rembrunit et elle fronça les sourcils. « Oui, cela a toujours été terrible. Je me trouvais ici même au moment où les remonta tous les deux. On coucha Mathie dans la chambre que vous occupez maintenant. Nous étions de grandes amies, elle et moi. Je devais me marier le printemps suivant. Il était convenu qu'elle serait mademoiselle d'honneur. Quand elle reprit connaissance, je montai auprès d'elle et passai toute la nuit à son chevet. On lui avait donné des narcotiques et elle sommeilla jusqu'au matin. Puis, à ce moment, elle revint à elle tout d'un coup, et me fixant de ses grands yeux, elle me dit « Bon, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout cela, » s'écria Miss Cecil, s'interrompant brusquement. Elle enleva ses lunettes, essuya la buée des verres, et les plaça sur son nez d'une main mal assurée. « On sut le lendemain, » continua-t-elle, que Zina Fromm avait renvoyé Marthe à l'improviste parce qu'elle avait engagé une servante. Alors les gens d'ici n'ont jamais bien compris comment il se faisait qu'Ethan et Matty fussent en luge au moment où ils auraient dû être en route pour la gare des Flats. Moi-même, je n'ai jamais su ce que Zina en pensait. Je ne le sais pas aujourd'hui. Personne ne connaît les pensées de Zina. Quoi qu'il en soit, sitôt qu'elle a pris l'accident, elle a couru auprès de Fromm qu'on avait installé au presbytère. Et dès que les médecins l'autorisèrent à transporter Matty, Zina l'envoya chercher et la fit ramener à la ferme. Et depuis lors, Matty Silver y est toujours resté. Mais n'avait nulle part d'autre où aller, répondit simplement Mrs. Hill. Et mon cœur se serra en pensant aux dures nécessités qui pèsent sur les pauvres. Oui, et depuis ce jour, elle a toujours vécu avec eux, continua Mrs. Hill. Et Zena a fait ce qu'elle a pu pour elle et pour Ethan. Ce fut un vrai miracle quand on pense combien elle était malade elle-même. Mais lorsqu'on eut besoin d'elle, elle parut comme ressuscitée. Bon, non pas qu'elle ait jamais cessé de se droguer, même elle a encore des crises de temps en temps. Cependant, elle a trouvé la force de les soigner tous les deux depuis plus de 20 ans. Elle qui, avant l'accident, se croyait incapable de se soigner elle-même. Mr. Sall s'interrompit un moment. Je restais silencieux, absorbé dans la vision que ces mots évoquaient. Mais c'est épouvantable pour tous les trois, murmurai-je. Oui, oh, ce n'est pas gai. Ajoutez à cela qu'aucun d'eux n'est facile à vivre. Matty l'était avant l'accident. Je n'ai jamais connu une plus douce nature. Mais elle a trop souffert. C'est ce que je réponds toujours quand on vient me raconter que son caractère s'est aigri. Quant à Zina, elle a toujours été maniaque, mais c'est étonnant comme elle supporte la mauvaise humeur de Matty. Je l'ai vue de mes propres yeux. Cependant, les deux femmes se chamaillent parfois. Et alors, oh, le visage des femmes fait pitié. Dans ces moments-là, je crois bien que c'est lui qui souffre le plus. En tout cas, ce n'est pas Zina. Elle n'en a pas le temps. C'est bien malheureux, termina Mrs. Hill, qu'ils soient tous trois renfermés dans cette cuisine. L'été, quand il fait beau, on roule Matty dans le parloir ou bien devant la porte de la maison, et les choses vont un peu mieux. Mais l'hiver, oh, il y a le bois à économiser, car les femmes n'ont pas un centime de trop. Mistress Hill poussa un soupir de soulagement. Elle semblait heureuse de s'être enfin déchargée de son secret. Je croyais qu'elle ne me dirait plus rien. Mais elle céda tout à coup à un accès de complète franchise. En levant ses lunettes de nouveau, elle se pencha vers moi par-dessus le tapis de table en laine frangée et poursuivit à mi-voix. Il y eut un moment, environ une semaine après l'accident, où l'on crut que Matty ne vivrait pas. Eh bien, je prétends que c'est grand dommage qu'elle ne soit pas morte. Je l'ai dit tout de go un jour à notre pasteur, qui en fut scandalisé. Seulement, voyez-vous, il n'était pas là le matin où elle revint à elle pour la première fois. Et je répète que si elle était morte, Ethan, lui, eût pu vivre. Tandis que maintenant, je ne vois guère de différence entre les femmes de la ferme et ceux qui sont couchés là, dans le cimetière. Sauf que ces derniers sont en paix et que leurs femmes ont appris à se taire.